En quelques mots, moi je m'appelle Nicolas Ridoux, je suis ingénieur de formation. Je travaille dans le secteur médical, on pourra en reparler un petit peu si vous voulez. Et donc j'ai passé un certain temps à rassembler des documents qui m'ont conduit à écrire un petit bouquin qui s'appelle La décroissance pour tous, que vous avez peut-être vu ou lu. Enfin, j'en avais quelques exemplaires pour ceux qui souhaitent se le procurer. Et donc ça reprend à peu près tout ce que je vais vous dire ce soir. Bon, je teste la distance et ça se porte déjà plus. Voilà, là vous m'entendez. Bon, ok. Alors, j'ai intitulé ça la décroissance pour tous. Évidemment, il ne s'agit pas de faire décroître tout le monde, on y reviendra. C'est plutôt dans le sens de la décroissance accessible à tous. Donc je démarre en projetant ici un petit dessin d'un Américain qui s'appelle Andy Singer, qui me fait toujours beaucoup rire. Donc qui est coupé en deux, donc on a dans la première partie un homme d'affaires qui nous dit « Bon, le paysage est un peu moins beau, mais nous avons maintenu le prix du bois à un niveau raisonnable. » Donc là déjà, on voit quelles sont les priorités qui ont été fixées dans ce premier petit dessin. Puis en dessous, on voit des personnes qui sont en train de traiter un champ de fraises, manifestement, et la personne en tenue de cosmonaute nous dit « Bon, ok, on utilise quelques pesticides, mais au moins c'est pas cher. » Donc j'ai trouvé que ce dessin était intéressant en première partie parce que il place tout de suite la discussion sur le terrain de nos valeurs. C'est-à-dire pas tellement sur le terrain de l'environnement, même si c'est crucial, on y reviendra, mais également sur le terrain de nos valeurs, à savoir qu'est-ce qui est vraiment essentiel pour nous. Est-ce que c'est, comme ici, des éléments et des critères économiques, le prix qu'il faut maintenir à un niveau le plus bas possible, ou est-ce que c'est la beauté d'un paysage dans la première partie de l'image tout en haut, ou alors le droit à vivre dans un environnement qui soit sain, ça c'est la partie du bas. Donc je trouvais que ce petit dessin-là résumait bien la problématique des valeurs. Alors quel plan je vais suivre? Je vais essayer de tenir à peu près en une heure pour qu'on ait le temps d'échanger derrière, parce que la décroissance, on entend vraiment tout et n'importe quoi. C'est une idée qui est un petit peu neuve, donc on entend toutes sortes de choses sur la décroissance. Donc je pense qu'il est important de laisser du temps pour la discussion et les questions à la fin. Alors, le plan que je vais suivre, d'abord, pourquoi parler de décroissance? Ça a déjà été un petit peu défriché par les deux précédents orateurs du cycle pour ceux qui y ont assisté. Donc, le mythe du développement dans un premier temps, et puis le problème du pic de pétrole par Sophie Divry la semaine dernière. Donc là, je vais essayer de balayer d'autres champs, plusieurs des champs qui concernent l'anthropologie, quoi, centrés sur l'homme. Ensuite, j'essaierai de donner une définition. J'ai nommé ça « essai de définition » parce que la décroissance, c'est une pensée qui est en construction. Donc, j'ai pas du tout prétention à définir ce qu'est la décroissance, mais on va tenter en tout cas de proposer une définition provisoire. Et puis, troisième partie, la question qu'on nous pose, bon, ben d'accord, mais que proposez-vous? Alors, on va essayer de balayer quelques propositions pour, si nous sommes d'accord, si on partage la première partie, alors comment favoriser cette décroissance? Alors, pourquoi la décroissance? Donc, en 2006, on a une humanité qui est très contrastée, c'est ce que j'ai marqué ici, à la fois des succès qui sont inouïs, on pourra y revenir, mais ça, ces succès s'étalent en général dans tous les médias à longueur de journée, donc je ne sais pas si c'est nécessaire d'insister dessus, mais en parallèle de ça, et d'ailleurs ces succès ils sont en général localisés, hein, on y reviendra, c'est les pays du Nord, et puis c'est une fraction des habitants des pays du Nord, mais la persistance de fléaux et des graves inquiétudes pour l'avenir. Alors pourquoi la décroissance également, je l'ai dit un petit peu en introduction, c'est pour moi un problème de valeur humaniste bien avant d'être un problème d'environnement. Ce que je veux dire par là, c'est que même si l'environnement nous permettait d'aller vers une croissance infinie, je pense qu'il y a d'autres raisons, des raisons psychologiques par exemple, qui feraient qu'il ne me paraît pas pertinent de continuer vers du toujours plus fort, toujours plus rentable, toujours plus violent éventuellement. Donc un problème de valeur avant d'être un problème d'environnement. Troisième point, pourquoi la décroissance? Ben pour poser la question de la croissance infinie, parce qu'elle est bien peu posée cette question. Elle commence à l'être et on voit la décroissance qui monte le bout de son nez dans différents médias, mais la question de la croissance infinie jusque-là a été très peu posée. Elle a été par certains auteurs, mais disons, ça n'a pas eu un rayonnement dans le grand public. Et là, je précise tout de suite que la décroissance, et on y reviendra bien sûr, il faut voir ça comme une désaccoutumance de la croissance. On pourrait parler d'une accroissance, comme dit Latouche, hein, avec un A privatif. Donc c'est une désaliénation, une désaccoutumance, comme on parlerait d'une désaccoutumance à une drogue. c'est pas une croissance négative et une croissance négative, pardon, et la baisse de tout pour tous et pour toujours. Hein, qu'on se comprenne bien dès cette diapo. J'y reviendrai là aussi dans le détail. Qu'est-ce que c'est que la croissance? Alors là, je vais vous parler de décroissance, mais il faut aussi qu'on soit d'accord, qu'on partage la définition de qu'est-ce que c'est que la croissance. La croissance dont je parle ici ce soir, c'est pas la croissance d'une plante, c'est la croissance économique. C'est celle dont on parle en général dans les médias, quand on ouvre la radio, quand on regarde la télé, quand on lit un journal. Quand on parle de croissance, vous avez presque 9 chances sur 10 d'être dans un contexte de croissance économique. Donc c'est la croissance de quoi? C'est la croissance du PIB, produit intérieur brut, cette valeur étant déjà en elle-même tout à fait critiquable. Là aussi on pourra y revenir si vous le souhaitez, mais dans le PIB on somme à peu près tout et n'importe quoi. On va sommer par exemple ce que n'importe quelle comptabilité d'entreprise, même une entreprise néolibérale, comptera comme une charge, c'est-à-dire des frais de soins, des frais de santé par exemple. Ça va augmenter le PIB, alors c'est plutôt une charge. Et réciproquement, le bénévolat, le travail domestique, tous ces éléments-là qui sont pourtant colossaux ne sont absolument pas comptés dans le PIB. Donc on voit déjà qu'il y a des éléments d'une richesse incontestable qui ne sont pas comptabilisés dans le PIB. Alors ici, je vous ai mis une courbe. Il y aura quelques courbes dans ma présentation, mais j'essaie de faire simple, hein, c'est pas très compliqué. Ça, c'est une courbe qu'on appelle une exponentielle, pour ceux qui ont fait des maths. Donc c'est un taux d'accroissement constant. Donc quand on a une croissance, même quand elle est très faible, hein, une croissance de 1 ou 2%, eh bien ça fait toujours cette courbe-là, qui est une courbe exponentielle. Donc au début, les effets sont très peu significatifs, ça démarre tout doucement, et là on est dans une période un peu d'euphorie, parce qu'on a les bénéfices de la croissance sans avoir les inconvénients. Mais rapidement, on a vraiment un effet cumulatif, un effet boule de neige, qui fait qu'on est dans une courbe qui est proprement explosive. Vous voyez que là, ça monte très très fort, très vite. Donc c'est important de savoir que quand on parle d'une croissance, au sens un taux d'accroissement constant, même faible, 2% par an comme je le disais, on est dans un mode proprement explosif. Vous voyez que la courbe, hein, là, ce qu'on appelle la pente, ici la pente est très raide. Hein, c'est la dérivée de la courbe et donc monte très très fort. Alors je vais essayer de balayer comme ça différents secteurs, comme je le disais, centrés sur l'humain. Je vais faire très vite, hein, il y a peut-être une diapo sur l'histoire, une sur la géo, une sur l'économie, etc. Sur l'histoire, la croissance c'est un phénomène qui est tout récent, hein, qui a peut-être 250 années. Donc à l'échelle de l'humanité, c'est vraiment un battement de cils, hein, c'est trois fois rien. Et en général, quand on parle de la croissance dans les discussions courantes, on se réfère souvent à la période d'une croissance forte. Alors si on parle d'une croissance forte, c'est encore plus court. C'est l'après-guerre, donc c'est les 30 glorieuses et puis ce qui va suivre derrière. Et donc ça a eu un impact colossal depuis les années 50. Là j'ai scanné un album parce que mon épouse est instite, donc elle a toujours plein d'albums pour les enfants, pour sa classe. Donc il y en a un qui m'est tombé entre les mains qui s'appelle « Avant la télé ». Et donc c'est Yvan Pomon, un dessinateur, qui a fait ça. Et donc je crois que c'est dans les années 53, là je vois ça sur le... Alors, je suis pas du tout en train de dire qu'il faut retourner dans les années 50, hein, c'est pas du tout l'objet. Mais juste, j'ai été frappé par cette image, parce que vous voyez qu'il y a tout un tas de commerces un peu partout, là. Et ce que nous dit le texte, il dit, entre la maison d'Alain et l'église Sainte-Jeanne d'Arc, on ne compte pas moins de 4 épiceries, 3 boucheries, 2 charcuteries, 2 boulangeries, 1 pâtisserie, 1 crèmerie, 2 salons de coiffure, 1 marchand de journaux, 1 pharmacie, 3 bistrots, 1 cordonnerie, 1 mercerie, 1 blanchisserie, 1 électricien, 1 droguerie, 1 quincaillerie, 1 garage, 1 fleuriste et 1 marbrier tailleur de pierre, car le cimetière n'est pas loin, je lis le texte. Donc, ça m'a frappé parce que moi, je suis né en 73, j'ai vraiment jamais connu ça, hein, j'ai jamais connu une telle situation. Donc là, on voit l'impact colossal d'une croissance forte, d'une croissance économique forte. Là, en l'occurrence, c'est la grande distribution, hein, qui a vraiment éliminé tous les petits commerces et toute la convivialité qui allait avec. On en reparlera si vous voulez. Au niveau géographie, vous voyez, j'en ai fini avec l'histoire, donc on va aller assez vite parce que sinon je vais déborder énormément le temps dont je dispose. En géographie, là c'est le programme des Nations Unies pour le développement qui nous a montré dans un de ses rapports que 20% de la population mondiale, les pays riches, et au sein de ces pays riches, les riches parmi les riches, hein, s'accaparent 86% des ressources naturelles de la planète. Ça fait beaucoup quand même au niveau du déséquilibre. Hein. Et on a évidemment la même chose à l'extrême inférieur où on a 20% de la population qui récupère 1 ou 2%. Enfin, c'est très très faible. J'ai plus en tête le chiffre, mais donc là, on a des inégalités qui sont colossales. J'ai mis aussi la carte du WWF ici, qui vous montre l'empreinte écologique par pays. J'ai tracé ici l'empreinte écologique qui est dite soutenable. Donc, je crois que c'est 1,4 hectare par personne. Donc, vous voyez, tout ce qui se trouve au-dessus du trait rouge ici, toutes les couleurs que vous avez au-dessus du trait rouge, on est dans un mode insoutenable. C'est-à-dire qu'on consomme plus que l'empreinte écologique admissible. Donc là, vous voyez que sur le plan de la géographie, c'est très très net de voir qui surconsomme et réciproquement qui sous-consomme. Et là, une thématique aussi de la décroissance, ça va être de dire ceux qui surconsomment doivent, pour des raisons vraiment de partage de base, des raisons éthiques de base, doivent freiner leur consommation pour permettre à ceux qui sous-consomment de consommer un peu plus si tel est leur désir. Et on peut imaginer que c'est leur désir. Donc là aussi, une question d'équité derrière cette sobriété dont on reparlera. Sur le plan de la géographie aussi, là j'ai pris l'hypothèse basse, hein, il y a différentes hypothèses, ça va de 1,2 à 2 fois en moyenne. Donc là l'hypothèse basse nous dit, nous utilisons environ 1,2 fois trop de ressources, ce qui veut donc dire qu'on puise dans le capital, on consomme plus que ce que la Terre peut nous offrir. Donc on tape dans le capital et si on continue comme ça, évidemment on va toucher la fin des réserves. Sur le plan de la géographie aussi, donc vous avez vu cette empreinte écologique, comment elle est répartie au niveau des pays du Nord et des pays du Sud. Là, j'ai pris quelques exemples aussi. Moi, je parle presque d'exploitation des pays du Sud. Cette affiche m'avait frappé, je l'avais vue pour la première fois dans une gare. Peut-être vous l'avez vue aussi quand vous vous baladez, où c'est le CCFD, une association qui écrit « Tu mangeras quand tu seras compétitif ». Il faut réformer les règles du commerce mondial. Donc c'est choc comme campagne. Mais je crois que c'est issu de leur constat de terrain, quoi. Donc quand on parle d'exploitation des pays du Sud, j'ai pris quelques exemples. Le pétrole, je ne vais pas revenir dessus, j'imagine que Sophie a dû en parler un petit peu la semaine dernière. L'uranium, moi je l'ai découvert seulement il y a quelques années, j'ignorais ça il y a quelques années. J'entendais parler d'indépendance énergétique, hein. On m'expliquait que la France avait fait le choix de l'indépendance énergétique puisqu'on s'appuie beaucoup sur le nucléaire, donc on a moins à importer. Et qu'elle ne fut pas ma surprise de voir qu'on importait 100% de l'uranium, puisqu'on n'a plus d'uranium en France. Le coltan, c'est un minerai qui se trouve dans tous nos téléphones mobiles, pour ceux qui ont des téléphones mobiles, donc c'est du colombo-tantal. Là, je crois que c'est 70 à 80% du coltan qui est fourni par le Congo. Il y a eu évidemment des événements tragiques au niveau du Congo, et ces événements ne sont pas étrangers aux commandes du Nord, en fait, hein, qui va rechercher les ressources là où elles se trouvent, en l'occurrence en Afrique. Pour le bois également, bon, etc. Je ne vais pas vous détailler tous ces exemples, on pourra là aussi y revenir si vous souhaitez. Si on continue comme ça, alors là j'ai pris l'hypothèse qu'on ait une croissance de 2%, hein, la planète croît de 2%, sachant qu'actuellement c'est plutôt entre 5 et 6%, hein, donc globalement, hein, une croissance globale qui est assez élevée. Si on continue pour ça avec une croissance de 2%, si on imagine qu'on a un droit qui est bien réparti à la consommation, c'est-à-dire que la Chine, l'Inde, l'Amérique du Sud, l'Afrique, petit à petit rattrapent le niveau de consommation qu'on a nous actuellement, mais c'est 30 planètes qu'il nous faudra en 2050, hein, avec les projections d'empreintes écologiques. Donc là, on voit qu'au moins, il faut poser la question. Je n'ai pas encore parlé de qu'est-ce qu'on pourrait proposer comme solution, mais on doit au minimum se poser la question quand on voit des chiffres comme ça. Au niveau de la géographie, à nouveau, on nous dit parfois que la croissance peut aider à tirer les pauvres donc de leur pauvreté. Moi, j'ai noté également que ça permettrait ça aggrave les inégalités de façon tout à fait scandaleuse. Le PNUD en 99, donc c'est le programme des Nations Unies pour le développement, hein. J'essaye d'avoir des sources qui soient assez solides, nous dit que l'écart entre les pays les plus riches et ceux les plus pauvres était de 3 à 1 en 1820. Il est passé de 72 à 1 en 1992. Donc on a vraiment un étirement de l'écart qui est colossal. C'est ce qu'a montré à nouveau le PNUD, donc toujours les Nations Unies en 2005, donc le dernier rapport qui est sorti. On voit que vous avez ici le revenu par habitant, horizontalement, et verticalement, vous avez les plus pauvres tout en bas, les plus riches tout en haut. Donc toute cette surface-là en vert, c'est la répartition du revenu. Donc vous voyez qu'il y a énormément de monde ici qui a très peu de revenus. Et puis alors quand on arrive vers la partie haute de la courbe, là on a à nouveau une explosion des revenus pour très peu de personnes. Je voyais aussi dans le PNUD 2005 que les 500 personnes les plus riches possèdent un revenu plus important que les 416 millions les plus pauvres. Enfin bon, je ne vais pas insister. Hein. Alors, y compris dans les pays riches, et ça c'est quelque chose qu'on ressent intuitivement, donc il y a des chercheurs, sociologues qui ont essayé de mettre ça un petit peu en courbe, même si une courbe évidemment n'épuise pas la réalité, mais ça permet quand même de se faire une idée. On voit qu'on a une croissance des inégalités, y compris dans les pays riches. Donc on a vu qu'on avait des inégalités d'un pays à l'autre, mais on a également une aggravation des inégalités au sein des pays riches. Donc là, c'est ce qu'on appelle le BIP 40. Donc c'est un indicateur qui prend un grand nombre de séries statistiques avec des indicateurs sur la santé, sur la justice, sur l'emploi, sur les revenus, etc. Donc là, si on en croit ces chercheurs-là, donc je pourrais vous donner la référence si vous voulez, on voit que ça croît clairement. Ils ont commencé à tracer en 83, et donc l'indicateur continue à croître. Donc aggravation des inégalités. Ça c'est pour la France, hein. C'est pas précisé, c'est la France. Individuellement, donc là vous voyez que j'ai zoomé, on a fait de l'histoire, de la géographie, maintenant on se centre un peu sur l'individu, toujours ce dessinateur Andy Singer américain, donc là il nous montre un peu un homme des cavernes, un homme de Cro-Magnon qui nous dit « je ne suis pas heureux, il n'est pas heureux ». Et puis après on a son homologue contemporain qui est assis cette fois-ci sur des montagnes de déchets, les oiseaux ont été remplacés par un avion, le ciel est un petit peu moins bleu, un petit peu plus gris, et cet homme-là nous dit « je ne suis toujours pas heureux ». Donc ce qu'il veut dire par là, c'est est-ce que vraiment la consommation est corrélée au bonheur, comme on veut bien nous le faire croire tous les jours, par la somme de publicité dont on est assailli en permanence. Donc là aussi, on peut se poser la question, est-ce qu'individuellement, on est heureux? Vous connaissez peut-être le fait qu'en France, on est les champions du monde de la croissance, de la consommation d'antidépresseurs. Qui est quand même très choquant pour un pays du Nord, avec toute la tradition qu'on a, etc. Bon, manifestement, on n'est pas si heureux que ça. Le Japon également, vous avez peut-être vu cette dépêche de l'AFP, je crois que c'était à la fin de l'année dernière, qui est une des premières économies du monde, hein, le Japon, mais qui est le champion du monde en termes de suicide chez les jeunes. Donc manifestement, il y a quelque chose qui se passe mal. Donc il y a eu tout un débat au niveau du Japon, où certains se sont posé la question, est-ce qu'il ne faut pas qu'on fasse comme le Bhoutan, et au lieu de prendre le PIB comme un indicateur de notre bonheur, ne faudrait-il pas prendre le bonheur national brut? Ah bon, donc il y a un petit débat local, donc pas le PIB, mais le BND. On peut se poser aussi la question sur, toujours individuellement, est-ce que c'est toujours ce même dessinateur Singer, je trouve qu'il fait des dessins assez expressifs, finalement, tous ces objets que l'on possède, est-ce que c'est nous qui les possédons ou est-ce que c'est eux qui nous possèdent? Donc, est-ce que finalement, je ne suis pas encombré par tous ces objets, par la gestion sans fin? Quand j'achète quelque chose, il faut que je m'en occupe, il faut que je le maintienne, etc. Il y a des contrats, il y a des machins, il y a des trucs. Donc, est-ce que finalement, ce n'est pas une contrainte plus qu'autre chose? Est-ce qu'on n'a pas été au-delà? Évidemment, il ne s'agit pas d'avoir zéro objet, ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Hein. Mais peut-être faut-il les remettre à sa place et pas non plus crouler, être enterré vivant sous tout un tas de possessions matérielles ou immatérielles d'ailleurs. Alors ça, j'avais rencontré ça dans un bouquin, ça me semblait intéressant, ça peut paraître un peu naïf, mais je trouve que c'est pas si naïf que ça quand on y réfléchit. C'est être et avoir. Est-ce qu'il faut être dans cette séquence avoir, puis faire, puis être? C'est-à-dire, si j'avais une maison, par exemple, hein, vous savez que nous, les Français, notre plus cher désir, c'est d'avoir un pavillon. Hein. Quand on fait des sondages, les gens disent, voilà, le rêve du Français, c'est d'avoir une maison avec une piscine, etc. Bon, puisque maintenant, la piscine, c'est standard avec le pavillon. Donc, si j'avais une maison, alors je pourrais faire du jardin, du bricolage, du sport dans ma piscine, et je serais heureux. Donc, on est dans le sens avoir. Si j'avais, alors je ferais. Et donc, je serai heureux dans la séquence vraiment avoir, puis faire, puis être. Alors que toutes les spiritualités, toutes les philosophies depuis la nuit des temps, pas toutes, en tout cas toutes celles que j'ai croisées, je ne vais pas dire toutes, mais un grand nombre, nous dit qu'il faut être plutôt dans l'ordre inverse, c'est-à-dire être, donc cultiver la disponibilité aux autres, faire ce qu'on fait là par exemple, cultiver la convivialité. Donc être d'abord, et si j'ai... Ça veut dire travailler sur soi également, hein, peut-être réfréner sa violence, travailler sur le dialogue, être, et si j'ai une certaine qualité d'être, alors je peux contribuer positivement au groupe, et donc je fais des choses, et parfois quand je fais des choses, j'ai besoin d'objets, donc c'est là qu'il faut que j'ai des choses. Donc, vous me direz ce que vous en pensez, moi je trouve que c'est pas si naïf que ça quand on y réfléchit. Et donc, d'où le mot d'ordre de la décroissance. Je crois que c'est Paul Ariès qui avait mentionné ça, mais j'en suis plus certain, qui dit, mais finalement, peut-être faut-il aller vers moins de biens, au sens de biens matériels, mais plus de liens, au sens des liens conviviaux, immatériels, ce qu'on est en train de faire à l'instant, en particulier quand vous me répondrez tout à l'heure. Parce que là, c'est un peu monodirectionnel. Alors, individuellement, là aussi, c'est un peu issu de mon expérience personnelle, peut-être vous le partagez, hein. On est maintenant de plus en plus pressuré, il faut que ça produise, on est dans le rentable. Donc, la productivité est un critère essentiel. Les rythmes sont de plus en plus élevés. Peut-être vous avez vu les temps modernes avec Charlie Chaplin, mais c'est vraiment ça. Il faut que la chaîne aille toujours plus vite. Sauf que maintenant, on n'est plus dans des chaînes, on n'est plus dans des sociétés de services, mais c'est tout à fait la même chose. Donc, on instrumentalise et on marchandise les relations. Hein, on marchandise de plus en plus une sphère qui avant était non marchande. On y perd au passage du lien social parce qu'on devient tous compétiteurs les uns des autres. Donc c'est vraiment une compétition chacun pour soi. On peut être mis en compétition soit avec son voisin, soit avec quelqu'un qui est à l'autre bout de la planète et qui va produire un bien qu'on pouvait produire localement précédemment. Et puis également, je crois, au niveau individuel, une perte de sensibilité. C'est-à-dire de plus en plus, on est dans un monde qui est un peu hors sol. On est dans un monde qui est façonné par la télé, par la publicité, par les supermarchés. Donc on est un peu déconnecté de la nature, en particulier quand on habite en ville, et la plupart d'entre nous, on habite effectivement en ville. Donc on n'a plus vraiment une sensibilité avec la nature. On ne se rend plus vraiment compte des équilibres. Est-ce qu'on est en train de passer ou pas un équilibre? Est-ce que oui ou non, il y a plus ou moins de pas trop à la campagne, on n'est pas nombreux à suivre ce genre de choses. Est-ce qu'il y a plus ou moins d'oiseaux, etc. Ça, c'est des choses avec lesquelles on a petit à petit perdu le contact. Donc, n'y a-t-il pas une perte de sensibilité? C'est une question que je pose. Au niveau de l'économie, je vais essayer de répondre à quelques tartes à la crème qu'on nous envoie régulièrement. Alors, croissance, capitalisme et emploi, une folle concurrence, j'en ai parlé un petit peu. Est-ce que c'est vraiment un futur désirable? Moi, j'en doute. Certains parmi les plus libéraux, même des néolibéraux, reconnaissent que la croissance crée des richesses, ça c'est clair, mais ne crée pas d'emploi. Donc là j'ai tiré deux graphiques du journal Les Échos, qui n'est pas forcément un journal qui porte la décroissance. Hein. Donc là c'est des courbes qui sont tirées de la situation allemande, hein, donc l'économie allemande qu'on cite comme référence, donc pour la chimie et pour la construction mécanique. Donc là, vous voyez qu'il y a une croissance du chiffre d'affaires, c'est la courbe que je suis en train de vous montrer ici, entre 99 et 2005. Croissance qui est très forte, si je fais le calcul, c'est plus de 4% en moyenne. Donc c'est des croissances qui, en théorie, sont vraiment génératrices d'emplois. En parallèle, on voit le nombre de salariés ici qui chute. C'est vraiment sans appel, quoi. Je veux dire, n'importe qui comprend une courbe pareille. Hein. Et donc ça, c'est la construction mécanique, même chose. Un chiffre d'affaires qui croît, lui aussi, de plus de 4% par an. Et des employés qui, après une petite croissance ici, on attaque une chute qui est assez marquée. Donc vous voyez ici, il n'y a pas de corrélation entre croissance et emploi, comme on nous le dit à longueur de journée. Si la croissance est nécessaire pour créer de l'emploi, comme on nous le dit, et en tout cas certainement pas suffisante, comme on le voit ici. Depuis 80 en France, on a eu un PIB qui est en croissance de 156%, ça c'est les chiffres de l'INSEE. On a un chômage qui est en croissance de 50%, voire beaucoup plus. Peut-être vous avez entendu parler du collectif qui nous a parlé des autres chiffres du chômage fin décembre 2006, hein, où ils ont publié des chiffres qui sont à peu près deux fois supérieurs aux chiffres officiels. Parce que les chiffres officiels ne prennent que la catégorie 1 des chômeurs. Et il y a tout un tas d'autres catégories qui, d'après eux, d'après ce collectif, devraient être prises en compte. Donc là, quand je disais croissance de 50%, j'étais sur la catégorie 1 seulement. Hein. D'accord. Peut-être. Ce même bureau qui explique que la croissance ne crée pas d'emploi. On pourra y revenir dans le débat si vous voulez après. La croissance nécessaire pour financer les services publics, ça aussi c'est une question qui nous est posée très souvent. Si on n'a plus de croissance, comment on finance les services publics? Il y a deux réponses. D'une part, qu'il faut créer effectivement un nouveau système de financement. On ne peut pas imaginer un système une décroissance dans un système qui est conçu par et pour la croissance. Il faut faire vraiment un changement de paradigme, on pourra y revenir. Mais le point sur lequel je voulais insister ici, c'est que la France est quand même 5 fois plus riche depuis 45. Hein. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas un gros problème de répartition plutôt que de taille du gâteau qu'il faudrait toujours continuer à faire croître indéfiniment? Pourquoi j'ai pris depuis 1945? Parce qu'en 1945, il y avait le Conseil national de la résistance qui, lui, avait des valeurs humanistes qui étaient très fortes et qui a mis en place, comme vous le savez sans doute, la sécurité sociale, les assédiques, etc., les congés, enfin, il y a tout un, pas les congés, mais tout un tas de la liberté de la presse, tout un tas d'éléments qui ont été comme ça créés, impulsés au sortir de la guerre par le CNR, qui rassemblait des instances politiques de tous les bords. Donc ils ont fait ça en 1945, dans une France qui était ruinée, mais ils avaient vraiment une volonté politique d'y aller. Et donc on nous dit aujourd'hui, on est 5 fois plus riche, mais on ne peut plus le faire. C'est pour le moins surprenant. Mais quand je dis la France est 5 fois plus riche, c'est la France, pas l'État. Hein. L'État, lui, est très endetté. Par contre, qui possède la dette de l'État? Pour plus de la moitié, c'est les Français. On pourrait y revenir là aussi, si vous voulez. Est-ce que la croissance fait le bonheur? Donc il y a différentes courbes qui existent. Ça, c'est une courbe pour les États-Unis entre 59 et 96, avec le PIB. Alors le PIB, lui, il est en croissance claire, nette. C'est clair et net. Hein. Et puis la santé sociale, elle, qui décroche. Alors la santé sociale, là aussi, c'est différents indicateurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, un peu comme le BID 40 de chômage, de justice, de santé, etc. Donc on voit que ça décroche ici à partir des années 69, 68, 69, où les indicateurs dits de santé sociale vraiment diminuent alors que le PIB augmente. Alors, il ne faudrait pas non plus croire que dans cette partie de la courbe-là, tout était bien. Parce qu'on pourrait dire, tiens, en première analyse, quand on regarde les courbes comme ça, finalement, il y a eu une période où la santé sociale a augmenté avec le PIB. Le problème ici, c'est que on néglige bien évidemment toutes les pollutions, par exemple, et toutes les nuisances qui, elles, vont arriver derrière. Donc, c'est-à-dire, quand on a ici, certes, amélioré la santé sociale, on a aussi créé les conditions pour l'effondrement de la santé sociale derrière. Hein. C'est effectivement les 30 glorieuses qui ont généré l'essentiel, par exemple, des gaz à effet de serre dont on se plaint aujourd'hui. Alors l'économie, que penser de l'économie? On est plusieurs au niveau de cette idée de décroissance à penser qu'il faut sortir de l'économisme. On ne dit pas sortir de l'économie, enfin certains vont plus loin. Serge Latouche lui parle de sortir carrément de l'économie. J'irai peut-être pas jusque-là pour ma part. Moi je dirais qu'il faut sortir de l'économisme. L'économie est sans doute utile, mais c'est une discipline comme une autre, donc elle est seconde. D'abord, il y a ces fameuses valeurs humanistes, liberté, égalité, fraternité, des valeurs démocratiques, les droits de l'homme, etc. Donc ça, ça passe d'abord, et derrière, on utilise l'économie. Et on ne nous dit pas, ah ben écoutez, monsieur, il y a les lois du marché, il y a les lois de l'économie, c'est des lois quasi cosmiques, c'est des lois naturelles, comme la gravité, ça s'impose à l'homme. Moi, je pense que pas du tout. Donc vous me direz là aussi ce que vous en pensez. Donc l'économie est utile, mais elle est seconde. Nietzsche disait ça aussi, il disait tout ce qui a un prix n'a pas de valeur. Il voulait dire par là que quand on peut mettre une étiquette avec un prix, en général c'est qu'on ne parle pas de l'essentiel. Parce que quand on parle de choses essentielles, de la beauté par exemple, c'est très difficile de chiffrer la beauté, de quantifier la beauté. Donc tout n'est pas quantifiable. C'est pour ça que l'économie ne peut pas décrire complètement notre vie. On ne peut pas faire rentrer notre vie dans des cases et dans des chiffres. Pourtant, je suis ingénieur, donc les chiffres, je connais pas mal. On fait beaucoup de maths dans les études d'ingénieur, donc j'en ai ingurgité pas mal. C'est très puissant, les chiffres, mais ça ne fait pas tout. Le profit n'est ni le meilleur ni le seul indicateur de pertinence d'une activité, et pourtant, c'est comme ça aujourd'hui qu'on juge la plupart des projets. Et donc, il faut sans doute se poser la question du quantitatif et du qualitatif. La décroissance, c'est aussi se poser la question de l'utilité de ce qu'on produit et de la qualité de ce qu'on produit par rapport à la quantité. Donc on est en train de dire ici que le toujours plus n'est pas forcément le mieux. Au niveau de la technologie, il y a des progrès qui sont certes incontestables. Si on prend l'espérance de vie, par exemple, l'espérance de vie a clairement augmenté depuis de nombreuses années. On entend maintenant quelques voix discordantes à propos de l'espérance de vie. Hein. Si on regarde au niveau des États-Unis, par exemple, ce toujours plus que constitue le fast-food, par exemple, ce qu'ils appellent le fast-food ou le junk-food, a conduit à une épidémie d'obésité telle que, il y a plusieurs chercheurs aujourd'hui nous expliquent que la courbe de croissance de l'espérance de vie va sans doute plafonner, voire décroître, parce qu'on commence maintenant à observer le résultat des nuisances précédentes. Donc, par exemple, sur l'obésité. Donc, des progrès incontestables d'un côté, mais des difficultés qui apparaissent à mesure. Donc, on peut se poser la question, Vivre vieux, est-ce que c'est toujours vivre mieux? Ça, c'est une question qu'il faut qu'on se pose. Est-ce que le progrès ne serait pas un jeu à somme nulle? Donc là, il y a certains livres qui parlent bien de ça. Fragilité de la puissance, par exemple, de Alain Gras pose la question. Lui, il explique qu'en général, on mesure le progrès localement. Par exemple, le progrès ou l'efficacité permise par un logiciel à l'échelle d'une institution. Mais sans prendre en compte toute la chaîne, tout le circuit qui a permis de fabriquer ce logiciel, l'ordinateur, etc., qui permet de le faire tourner. Donc il dit qu'on a bien du mal à prendre en compte tous les éléments de ce progrès. On le mesure localement et on a beaucoup de mal à le mesurer globalement. Si on le mesure localement, c'est clair qu'on peut montrer dans certains cas qu'il y a des progrès réels. Mais il est difficile de prendre en compte tous les effets et toutes les causes de ce progrès. Donc est-ce que ce ne serait pas un jeu à somme nulle? Ensuite, l'efficacité, on va nous dire, j'estime par exemple que l'efficacité c'est une question de valeur. Alors pourquoi on parle de ça? Toujours ce même Alain Gras nous dit, l'efficacité c'est une notion sans valeur et c'est une question de valeur. Alors pourquoi il dit ça? Il dit ça parce que si on prend le TGV par exemple qui permet d'aller très vite d'un point A à un point B, de Paris à Lyon, on peut se dire ça effectivement, c'est beaucoup plus efficace, c'est un progrès, on va plus vite de Lyon à Paris. Mais lui il nous dit, posons-nous la question, est-ce que la vitesse est nécessairement inscrite au cœur de l'homme comme un besoin fondamental? Est-ce que vraiment c'est quelque chose, encore une fois du point de vue des valeurs humanistes, qu'on doit viser? D'autres personnes vont nous dire, moi j'échange beaucoup plus avec un cheval. Hein, des passionnés des citations nous disent, j'échange beaucoup plus, je suis beaucoup plus heureux avec un cheval qu'avec un siège de TGV, par exemple. Donc tout ça pour montrer que c'est une question de valeur. On peut discuter sur... apparemment monsieur n'est pas très content. Vous pouvez garder ça pour vous, puis ensuite on discutera. Voilà, donc une question de valeur. Et une petite BD là que je trouve amusante, Calvin et Hobbes, peut-être vous connaissez ça. Il faudrait que je masque, je sais pas si je peux le faire parce que sinon vous allez lire la fin, donc c'est un petit peu de la triche. Je peux le masquer, ouais. Ah, c'est difficile. Alors, on a le papa de Calvin qui travaille sur un ordinateur qui nous dit, avant, si un client souhaitait que quelque chose soit fait dans la semaine, c'était un boulot urgent et il avait de la chance s'il l'obtenait. Maintenant, avec les mails, les fax et les portables, tout le monde veut tout de suite. Les progrès de la technologie augmentent les besoins. Ensuite, il dit, ces machines ne facilitent pas la vie, elles la stressent. Il dit, si nous voulions plus de temps libre, il aurait fallu inventer des machines moins efficaces. Ça, c'est le point de vue du papa de Calvin. Ensuite, il y a Calvin derrière qui a 6 ans, qui lit un paquet de pop-corn ou je ne sais quoi, et qui dit, 6 minutes au micro-ondes, qui peut perdre autant de temps? Vous voyez que là, il y a vraiment deux approches entre le père et le fils qui sont radicalement différentes quant au progrès. C'est pour ça que je disais que ce progrès technologique, c'est vraiment une question de valeur. Alors la technologie, toujours, la disparition des limites de ce qui est possible, ça a des conséquences également psychologiques, individuelles et collectives. Il y a un bouquin qui est très très bien du psychiatre et psychanalyste Jean-Pierre Lebrun qui s'appelle « Un monde sans limites ». Ce qu'il montre, c'est que lorsqu'on est dans un mode où la limite disparaît, où on est dans le sans limite, on ne peut plus se construire véritablement en tant qu'individu et en tant que société. Il en veut pour preuve qu'en psychologie, il est bien montré que pour séparer la fusion entre l'enfant et sa maman, donc la relation fusionnelle mère-enfant, il est essentiel qu'il y ait une fonction qui s'appelle la fonction paternelle, qui est la fonction qui dit non. C'est une fonction symbolique, donc qui crée du symbole et qui dit non. Ici, il y a une limite. Et c'est comme ça qu'on se structure. On se structure en prenant appui sur des limites. Et là cette croissance infinie qu'on nous propose peut finalement nous mettre dans un mode et dans un état d'esprit tel qu'on imagine qu'il n'y a plus de limites, qu'il n'y a pas de limite à quoi que ce soit. Et du coup, comme il nous faut malgré tout trouver des limites, on va les chercher dans le réel, dans le concret. Et là, ça amène à toutes sortes de comportements déviants. C'est lui qui le dit là. Je reprends en gros le propos du bouquin. Que ce soit de façon individuelle, avec des consommations de drogue, avec des sports, peut-être des sports à risque, ou alors que ce soit de façon collective, avec un comportement belliqueux, par exemple les États-Unis en tant que superpuissance, vont peut-être chercher la limite dans le réel, puisqu'il n'y a pas d'autre limite qui leur est imposée. Donc vous voyez que même d'un point de vue psychologique, même à supposer que l'environnement pouvait encaisser, ce qui n'est pas du tout le cas comme on va le voir, comme on l'a un peu vu, même du point de vue psychologique, ça pose question d'être dans un monde sans limite et dans la croissance perpétuelle. Je pense qu'il faut aussi une nécessaire réappropriation démocratique de la technologie, ça on pourra en reparler aussi. Alors l'environnement est bouleversé, on pourra y revenir, mais je voulais montrer ici que par des actions politiques, on peut clairement avoir un impact vraiment très réel sur le monde physique. Parce qu'on entend souvent dire « on ne peut rien y faire », etc. Là, c'est une photo satellite issue d'un rapport qui s'appelle le Millennium Ecosystem Assessment. C'est à peu près 1500 scientifiques, ou 1300, je ne sais plus, qui se sont réunis et qui ont publié ça en 2005, l'année dernière. Donc là, on voit la limite entre Haïti, qui est toute cette partie-là, et puis la République dominicaine. Et vous voyez qu'au niveau de Haïti, il y a plus de forêt. Et au niveau de la frontière, très clairement, on va dire, il y a une forêt qui est luxuriante. Donc c'est clairement une action politique qui permet ou pas de sauvegarder l'environnement. Ça, c'est un exemple aussi qui est assez frappant, toujours tiré du Millennium Ecosystem Assessment, l'exemple de la pêche, où on voit que là, on retrouve, vous voyez, cette courbe exponentielle que j'ai montrée en introduction. Donc une croissance très très forte des prises de pêche, puisqu'on a mis de la technologie, on a mis un marché, donc tout ça, ça favorise effectivement la croissance. On a utilisé des flottes de pêche ultra modernes avec des grands filets, on a été toujours plus profondément pour pêcher du cabillaud, donc c'est de la morue, donc nous on appelle ça cabillaud en France, hein. C'est du cabillaud. Donc on a cette croissance ici qui est exponentielle, et puis arrive ici un phénomène non linéaire, où les effets n'ont plus rien à voir avec les causes, et là on a une chute, un effondrement, qui est vraiment très très fort, en deux temps, donc là ça a rebondi un petit peu, et puis finalement ça s'est effondré complètement, et là aujourd'hui la pêche est strictement interdite, hein, depuis 92, et toutes les mesures qui sont faites chaque année montrent que la population ne se reconstitue absolument pas. Donc là, ça fait 15 ans qu'il n'y a plus de cabillaud au large de Terre-Neuve. Vous voyez la courbe vraiment qu'on a eue ici, une courbe avec croissance très forte, et puis ici, un point de rupture et une chute. Pourtant, quand on a commencé à s'apercevoir de ce problème-là, il y a tout un tas de technologies, de moratoires, les prix ont monté, etc. Donc il y a tout un tas de mécanismes et technologiques et des mécanismes de marché qui se sont mis en place, mais aucun de ces deux mécanismes n'a permis d'enrayer la chute. C'est pour ça que quand je discute moi avec des collègues ingénieurs, beaucoup me disent « mais ne t'inquiète pas, la technologie et le marché vont régler tout ça ». Il y a au moins un cas ici, et il y en a sans doute d'autres, hein, qui montrent que dans ce cas de figure ici, on est maintenant, enfin certains scientifiques pensent qu'on est passé dans l'irréversible. C'est une perte de biodiversité et on est dans l'irréversible. Donc là, ni la technologie, ni les mécanismes de marché n'ont permis d'enrayer ce déclin. Au niveau de la dépression des ressources, l'eau par exemple, on a une personne sur quatre qui n'a pas un accès suffisant à l'eau potable, et en parallèle, on a une usine qui fabrique des puces électroniques qui consomme 18 millions de litres d'eau par jour, soit autant qu'une ville de 60 000 habitants en 6 mois. Donc au début, je croyais que c'était un an. C'est une erreur, c'est en 6 mois, hein, l'eau de boisson, 1,5 litre d'eau par jour. Donc là, il y a des mécanismes de fabrication des puces avec des flux d'eau ultra purifiés, etc., qui font que ça consomme énormément d'eau. Et l'agriculture intensive, quant à elle, elle utilise 400 litres d'eau pour produire 1 kg de maïs grain, sachant que le maïs grain, c'est du maïs qui sert à nourrir le bétail. C'est même pas pour la consommation humaine. Vous voyez, on a en parallèle des gens qui n'ont pas assez d'eau et l'eau qui est utilisée vraiment à outrance pour des productions qui sont pas forcément absolument vitales. Donc toujours le CTFD avec ses affiches un peu choc qui nous dit ici « Désolé, l'eau potable est trop chère pour toi ». C'est quand même assez scandaleux. Ça, vous avez dû le voir pour ceux qui étaient là, je pense, la semaine dernière sur le pic de pétrole. Donc très vite, pour ceux qui n'étaient pas là. Donc on voit ici hein, la notion de pic de pétrole, c'est le pic de Hubbert. Ici, par exemple, c'est la production de la Norvège. Donc vous avez la courbe lisse, ici c'est le modèle de Hubbert. Et puis les petits points, c'est ce qu'on a constaté réellement. Donc vous voyez que là, les points suivent vraiment le modèle. Pour la Norvège, par exemple. Si on regarde le prix du baril, à l'époque où j'ai fait ce graphique, c'était en 2006, le baril était à 70$, je crois qu'on est repassé à 60, maintenant on est redescendu, mais on est redescendu par ici, c'est-à-dire on reste quand même très très élevé par rapport au cours historique du pétrole. Donc, de nombreux experts pensent qu'on est rentré vraiment maintenant dans la partie tendue, et donc dans l'ère d'un pétrole cher. au niveau de la santé environnementale, puisque moi je travaille dans la santé, donc c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement. On a une production chimique qui est passée de 1 à 400 millions de tonnes entre 1930 et 2000. Donc c'est vraiment énorme, hein, c'est colossal. Hein, c'est, une fois de plus, c'est cette explosion de la production entre 1930 et 2000. Donc c'est tout récent, hein, je veux dire, on n'est pas encore certain aujourd'hui de voir les impacts réels issus de toute cette production. C'est tout récent. 3% des 100 000 produits chimiques aujourd'hui commercialisés ont été testés. Moi, quand j'ai découvert ça, je suis tombé de mon siège. Je pensais très naïvement que tous les produits chimiques étaient testés avant d'être balancés dans la nature. Mais c'est à peu près 3%. C'est absolument incroyable. D'où la législation qui évolue, et REACH, par exemple, qui est passée au niveau européen, mais qui a été malheureusement un peu amendée par les lobbies de la chimie. Alors, il y a une pollution atmosphérique, il y a également une pollution domestique, on pourrait y revenir si on a le temps. L'INSERM nous dit qu'il y a une augmentation nette de 35% des cancers en France entre 80 et 2000 en 20 ans. 35% d'augmentation, ça c'est l'augmentation nette, c'est-à-dire corrigée de deux choses. D'une part, du vieillissement de la population et d'autre part, des campagnes de dépistage. Donc quand on enlève ces deux effets, il reste une croissance nette de 35% qu'on n'arrive pas à expliquer. Et l'INSERM nous publie, par exemple, en avril 2005, il est généralement admis que l'exposition environnementale est impliquée dans l'origine de la majorité des cancers. Je pense qu'il faut réfléchir très sérieusement à ça, d'où l'appel de Paris lancé par certains cancérologues. La couche d'ozone, vous connaissez, je pense, épidémie d'obésité, on en a parlé, stérilité, on pourra en reparler si on a le temps. La question que je pose, c'est est-ce qu'on n'a pas créé un cercle vicieux, finalement? Si on prend l'exemple du cancer, on sait produire des machines toujours plus perfectionnées pour détecter les cancers quand ils sont vraiment très très petits. Mais est-ce que c'est finalement pas tout le processus de création de cette hyper technologie qui est lui aussi générateur d'une incidence plus élevée, c'est-à-dire de nouveaux cas? Hein, donc est-ce qu'il n'y a pas un cercle vicieux ici qui s'est créé? Je pose la question. Réchauffement climatique, je pense que plus grand monde, même Bush, enfin plus grand monde ne discute de la réalité de ce réchauffement climatique. Mais dès 2001, on avait 3000 scientifiques du monde entier. C'est pas rien quand même. Hein. Le GIEC, le groupement intergouvernemental des experts sur le climat, c'est 3000 scientifiques de tout un tas de nations du monde entier. Donc c'est un poids quand même qui est très important. Donc, disons, tracer une courbe qui est vraiment sans appel. Hein. Vous voyez, là c'est l'année 1000, là c'est l'année 2000. Donc voilà l'allure des températures. Vous voyez qu'on retrouve toujours cette même courbe exponentielle. Ça, c'est l'ONERC, c'est l'Office National d'Études et Recherches sur le Climat, donc ça, c'est français. Donc là, c'est l'évolution de la température moyenne en été en France, de 1860 jusqu'à 2100, donc après, c'est un modèle, hein, évidemment. Donc voilà ce qui nous est promis pour la France. C'est une très forte croissance aussi, hein, puisque là, c'est 1860 et là, c'est 2100, donc là, la pente est très très élevée. Le réchauffement climatique, alors les principaux secteurs qui émettent des gaz à effet de serre, c'est les transports, c'est les industries manufacturières, l'agriculture. L'agriculture intensive, les transports, principaux émetteurs de gaz à effet de serre. Ce que nous disent beaucoup d'experts, c'est qu'on a le choix entre soit changer volontairement aujourd'hui, soit subir les changements qui se présenteront, qui seront imposés demain. Et si on regarde Kyoto qui s'inscrit dans le développement durable, qu'on peut saluer parce que c'est quand même une initiative internationale et c'est sans doute très compliqué de négocier un tel niveau, mais Kyoto, c'est une réduction globale de 5,6%, sachant que tout le monde n'a pas ratifié Kyoto, alors que le GIEC, lui, il conclut une réduction de 50% au niveau global et 75% en France, ne serait-ce que pour stabiliser la concentration en CO2. Donc vous voyez l'écart entre ce qu'il faudrait faire, 75%, et ce que nous propose Kyoto, 5,6%. Donc là on voit qu'on n'arrive pas à prendre vraiment la mesure, et on n'arrive pas à le traduire dans les faits, la mesure des efforts qu'il faudrait faire, ne serait-ce que pour stabiliser la concentration en CO2. Si on stabilise, ça veut dire que ça continue à se réchauffer, mais que ça se réchauffe au même rythme. Et là, ce qu'on fait actuellement, c'est qu'on continue à augmenter la concentration en gaz à effet de serre, ce qui fait que non seulement ça se réchauffe, mais ça se réchauffe toujours plus vite, de plus en plus vite. Donc là, quelques idées de la décroissance, on en reparlera après, mais c'est prendre sa voiture le moins possible, ou alors encore mieux, ne plus en avoir. en particulier pour les citadins, voilà, les ménages parisiens, plus de la moitié des ménages parisiens n'ont pas de voiture. Moi, j'ai été agréablement surpris en voyant cette statistique-là. Les transports en commun, la marche, le vélo, évidemment. Essayer d'acheter des productions locales pour ne pas stimuler les transports routiers. Donc, essayer de relocaliser l'économie. On en reparlera un petit peu. Manger bio et peu de viande, puisque là aussi, il y a beaucoup d'études qui montrent que quand on mange de la viande, il y a toute une chaîne derrière et ça consomme énormément d'énergie et de pétrole. Et c'est en général de l'agriculture intensive. Au niveau des risques technologiques, est-ce que la capacité de destruction de la technologie ne progresserait-elle pas plus vite que la capacité des humains à l'utiliser avec sagesse? C'est-à-dire, la technologie, elle avance très très vite. Il y a beaucoup de publications scientifiques qui sont faites en permanence. Mais est-ce que nous sommes toujours capables de l'utiliser à bon escient? C'est une question qu'on peut poser. Alors, il y a évidemment le risque nucléaire, que ce soit militaire ou civil. Mais il y a également toujours de nouveaux risques qui apparaissent. Donc là, les OGM et les nanotechnologies. Donc les OGM, c'est des organismes génétiquement modifiés. Là, le risque que j'ai relevé, il y en a peut-être d'autres, hein, mais c'est ce risque de pollution irréversible du fait de la très grande solubilité des OGM comme des nanotechnologies dans l'environnement. C'est-à-dire qu'une fois que c'est parti, c'est parti. Et on ne peut plus du tout dépolluer, en quelque sorte. Au niveau de la démographie, donc ça c'est un fait qui est... La démographie est en croissance, donc il faut faire avec. On a 9 milliards d'habitants en 2050. Donc ce qu'il faut absolument faire, c'est une réduction de l'impact écologique, et en particulier chez les plus riches. Vous avez vu l'écart qu'il y a entre les pays du Nord et les pays du Sud. Donc il faut évidemment réduire l'impact écologique, puisqu'on est de plus en plus nombreux à vivre sur la planète. Une urbanisation qui va croissant. Là, j'ai mis une petite photo de Tokyo, donc Tokyo vu d'une tour. Où là, c'est vraiment à perte de vue. C'est vraiment la ville dans tous les sens, dans tous les points cardinaux, à perte de vue. Alors, nos modes de vie aussi ont beaucoup évolué dans les dernières années. Au niveau de la voiture individuelle, par exemple, c'est une mobilité individuelle qui se paie très cher à tout un tas de points de vue. Bon, ici, le paysage, c'est l'échangeur de Rosny-sous-Bois. Donc là, clairement, on voit que le piéton n'est plus... Il n'y a pas de place pour le piéton dans un tel paysage, donc c'est quand même terrible, je trouve, de ne pas pouvoir se déplacer à pied. Tout un petit dessin de Singer en deux parties, donc là on voit deux collègues, c'est pas mal, ils font du covoiturage déjà, maintenant c'est un bel effort, ils sont deux dans la voiture, et là on voit le conducteur qui dit « je déteste conduire », parce qu'il est dans un bouchon manifestement, mais j'ai besoin d'une voiture pour aller au travail. Et puis derrière il y en a un qui klaxonne. Et bien on retrouve les deux collègues, il dit « je déteste mon travail », mais je dois payer ma voiture. Et que c'est un peu le cercle vicieux comme ça, et puis il y en a un autre derrière là qui dit moins fort, qui est un peu le pendant du klaxon qu'on avait. Il est moins fort, vous parlez trop fort, je ne peux plus travailler. Bon, ça c'est des analyses qui ont été faites par Ivan Illich, par d'autres, il y a très longtemps. Ivan Illich montrait que si on intègre le temps qu'on passe à travailler, le coût du carburant, le coût d'acquisition de la voiture, l'assurance, etc. Donc si on intègre tout ça, et qu'on le valorise, bah finalement, on s'aperçoit qu'au lieu de rouler à 130 km/h comme on imagine quand on est à fond sur l'autoroute, en fait, notre vitesse tombe, je crois, à 16,6 km/h. Hein, la vitesse réelle, quand on tient compte de tout le temps qu'on passe pour pouvoir être assis dans la voiture. Finalement, donc, c'est la vitesse d'un vélo. Donc, encore une fois, est-ce que c'est vraiment un progrès? On peut se poser la question. Non, ça tombe à 6 km/h, pas 16 km/h. Donc, c'est une marche, une course, quoi. 16 km/h, c'est la moyenne des déplacements dans Paris en 2004. La mairie de Paris nous dit que dans Paris, en 2004, les voitures ont été en moyenne à 7 km/h, ce qui est quand même très élevé. Une tonne de ferraille à déplacer pour aller à 16 km/h, c'est pas génial. Alors, est-ce que la voiture individuelle est absolument obligatoire? Là, j'ai affiché une carte des chemins de fer. C'est une carte qui date de 1921. Donc vous voyez qu'en 1921, on pouvait aller à peu près partout en France, et d'ailleurs ceux qui se baladent à la campagne l'ont sans doute vu, il y a encore des petites gares un peu partout, et bon, parfois il n'y a plus les rails, mais on voit encore le bâtiment typique, et on dit, mais le train allait jusque-là, parce que parfois c'est vraiment au bout du monde, quoi. Donc ce que je veux montrer là, c'est que c'est quand même des choix qui ont été faits de ne plus utiliser le rail, de ne plus utiliser l'infrastructure qui était disponible parce qu'elle a été estimée trop coûteuse, parce qu'il y a eu aussi un exode rural qui fait qu'il y avait moins de monde à la campagne, etc. Mais c'est tout un tas de raisons, mais on avait une infrastructure, donc il est possible de, d'avoir comme ça des transports collectifs qui soient de qualité et qui nous permettent d'aller même dans des endroits relativement inaccessibles. Alors avec tout ça, est-ce qu'on n'est pas en train d'aller dans le mur? Je vois que le temps passe et je suis beaucoup trop long, donc je vais accélérer un peu. Est-ce qu'on va dans le mur? Donc là, vous voyez, c'est un petit dessin qui est paru dans le journal La Décroissance, où là, c'est pas un mur, mais c'est un précipice, mais c'est un petit peu la même chose. Et puis tout le monde descend à la station La Décroissance. Alors, bon, certains nous disent, il n'existe pas de mur, c'est n'importe quoi, la technologie, nous on a foi dans la technologie, on va y arriver. Il n'y a pas de mur. Bon, ça c'est une première position, qui est de moins en moins répandue quand même. La deuxième position, c'est, il y a un mur, mais il est suffisamment lointain, si on court très vite, on peut sauter au-dessus. En fait, hein, la technologie va nous permettre de passer au-dessus. Là, c'est ce que dit par exemple la conseillère de l'écologie de Nicolas Sarkozy. J'ai lu un article dans Le Monde. Là, elle a dit, il faut qu'on aille de plus en plus vite, il faut qu'on investisse à fond, et on va trouver les technologies finalement qui nous permettront de régler nos problèmes. Donc d'autres pensent, comme Jean-Pierre Dupuy ou d'autres, que nous ne voulons pas croire ce que nous savons. Il y a un effet vraiment qui nous rend myope, et même quand on a l'évidence sous les yeux, on préfère ne pas croire à ça. Alors un essai de définition de la décroissance soutenable, c'est vraiment un essai, comme je le disais en introduction. Hein. Alors la décroissance, ce serait une diminution régulière des consommations matérielles et énergétiques dans les pays et pour les populations qui consomment plus que leur empreinte écologique admissible, en évacuant en priorité le superflu matériel au profit d'une croissance des relations humaines non matérielles. Cette diminution des consommations est choisie. Donc ça, c'est pour le terme décroissance. On peut aussi parler, comme je disais tout à l'heure, de désaccoutumance à la croissance, de désaliénation ou de accroissance, pas mettre la croissance avant tout. Soutenable, pour préciser le caractère progressif, démocratique de la décroissance et éviter tout choc social qui pourrait dégénérer dans la violence. Également pour s'opposer au caractère insoutenable de la poursuite de notre mode de vie actuel. Proposition à discuter tout à l'heure quand on en sera aux questions. Alors qu'est-ce que la décroissance ? C'est un mot obus, parce que c'est un mot qui est un peu choquant, c'est un mot qui peut paraître négatif, mais c'est un mot qui permet justement de faire entendre, d'amorcer un dialogue. Et comme disait également Bruno Clémentin, c'est difficilement récupérable, parce que notre système actuel a une capacité de récupération qui est vraiment impressionnante. Et donc là, la décroissance, ça paraît difficile à récupérer. Donc c'est la sortie de ce que moi j'appelle l'idéologie de la croissance, dans le sens où c'est plus du tout questionné, donc c'est vraiment une idéologie. C'est répartir autrement le gâteau et changer la recette, hein, donc il y a vraiment un problème de répartition, ça c'est le volet social, mais il y a aussi changer la recette du gâteau, ça c'est plus l'aspect qualitatif également de la production. C'est le primat aux valeurs humanistes, donc ça, là j'ai mentionné quelques valeurs, liberté, égalité, fraternité, droits de l'homme, etc. C'est une rupture avec la démesure, avec le délire productiviste, hein, toujours plus de production, de cette croissance infinie. C'est également un faisceau de pratiques convergentes, il n'y a pas une Bible, si vous voulez, qui dit, ben voilà, ça y est, nous on a réfléchi, on est plus intelligent que les autres, voilà la Bible, vous n'avez plus qu'à suivre et tout est prêt. C'est pas du tout ça, c'est un faisceau de pratiques et c'est à compléter. Complété par tous ceux qui se retrouvent dans ce que je suis en train de dire. Alors qu'est-ce qu'elle n'est pas, qu'on se comprenne bien, qu'il n'y ait pas d'incompréhension derrière, c'est pas du tout une croissance négative, là aussi j'aurai des courbes à vous montrer si on a le temps après, c'est pas une récession, hein. C'est pas ça. C'est se resynchroniser avec une empreinte écologique soutenable et ensuite être dans une société qui est en phase avec ce que nous permet la biosphère. C'est pas diminuer tout le temps à l'infini. Ce serait aussi ridicule que de croître à l'infini. C'est pas un nouveau système clé en main, il reste pour une bonne part à concevoir. C'est pas une évacuation simpliste des plaisirs. C'est pas non plus le retour à la bougie ou à un âge d'or imaginaire. On n'est pas du tout en train de dire que c'était mieux dans les années 50, par exemple, comme l'image que j'ai montrée pourrait le faire croire. Hein. On dit par contre, il faut regarder, y compris sur les côtés, derrière, devant, il faut regarder partout pour prendre toutes les bonnes idées là où elles se trouvent. Et c'est pas non plus l'arrêt de la science et de la technologie. Je pense qu'on aura besoin de beaucoup de science pour résoudre nos problèmes. Par contre, pas de scientisme, comme on disait tout à l'heure, hein. Pas d'économisme, pas de scientisme. C'est-à-dire, la science n'est pas du tout une fin en soi. C'est pas une fin en elle-même qui s'impose à nous. La science doit être mise évidemment sous les valeurs humanistes. Alors la décroissance, comment? Donc là, c'est aussi quelques pistes que je vais donner. Encore une fois, c'est pas du tout un credo. Hein. Donc il y a au moins deux niveaux, le niveau individuel et le niveau collectif. Pour le niveau individuel, je pense que ça passe par une certaine simplicité volontaire, en particulier, comme j'ai dit tout à l'heure, pour ceux qui surconsomment, donc les riches des pays riches. On est nombreux à être riches hein, dans les pays riches, on pourra y revenir. Ou en tout cas à surconsommer, parce que la richesse, il faut en reparler aussi. Ça passe par un travail sur soi également, parce que la limite n'est pas forcément quelque chose qu'on a spontanément. Donc s'auto-limiter, faire preuve de mesure, c'est pas forcément immédiat, évident, c'est pas forcément le plus facile, donc ça passe peut-être par un travail sur soi. Au niveau collectif, bah, évidemment, c'est s'associer avec d'autres, en parler, discuter, débattre, comme on va le faire tout à l'heure. Je pense aussi que ça passe par une nécessaire politisation, ça c'est un avis qui m'est tout à fait personnel, donc là aussi je suis prêt à en discuter avec vous. Je pense que si on en reste au niveau individuel et si on ne porte pas cette parole dans le champ politique, ce sera difficile. Donc je pense qu'il y a un mouvement qui est à la fois horizontal et vertical. Au niveau du mouvement horizontal, c'est une émulation, hein, une cohérence individuelle et puis une émulation entre nous. Et verticale, ben là c'est l'action collective. Au travers de diverses instances comme les associations ou comme les instances politiques. La simplicité volontaire, consommer, est-ce que ce ne serait pas un processus sans fin et une erreur de méthode, parce que dans la consommation, on est souvent dans une consommation qui est compulsive, hein, c'est-à-dire qu'on répond à une attente psychologique, et en général, on achète un objet qui est un objet matériel pour répondre à une attente qui, elle, est psychologique. Donc, on voit qu'on ne répond pas au bon niveau. Hein, on a une attente psychologique et on répond avec du matériel. Donc, la réponse ne peut jamais rencontrer la question et donc c'est un processus qui est sans fin. Qu'ont bien compris les structures du marketing, les publicitaires, hein, c'est conçu pour. Il faut surtout pas que ça s'arrête. Donc, est-ce que ce serait pas une erreur de méthode? S'interroger également sur la notion d'envie et de besoin, essayer de distinguer les envies et les besoins. Moi, je pense que c'est la condition d'une plus grande joie de vivre. Ça, j'en ai parlé. La sobriété, elle est nécessaire au partage soutenable avec nos frères humains. Essayer de vivre mieux avec moins. Donc le partage soutenable rend nécessaire la sobriété de ceux qui surconsomment. Au niveau de la philosophie, j'essaie de prendre quelques éléments. Là aussi, je vais vite parce que le temps est limité. Je suis presque au bout du temps si je veux laisser la parole aux questions. En philosophie, si on pioche comme ça à droite à gauche, on a par exemple Platon qui nous dit ben, « La liberté, vous la trouverez en limitant vos besoins. » On voit que tout ce que je dis là, c'est absolument pas nouveau. Hein. C'est presque des lieux communs. Épicure, et quand on parle pourtant d'épicurisme, on l'emploie pas en général dans ce sens-là, mais Épicure disait, l'homme qui n'est pas content de peu, n'est content de rien. Jonas, qui lui est beaucoup plus récent, hein, c'est un philosophe contemporain, lui parle des principes responsabilité, c'est-à-dire, agis de telle sorte que les conséquences de ton action sont compatibles avec une vie authentiquement humaine sur Terre. Alors après, on peut discuter sur qu'est-ce que c'est qu'une vie authentiquement humaine, hein. C'est le principe responsabilité. Après, quelques auteurs comme Ellul, Charbonneau, Illich, il y en a d'autres, hein, qui ont critiqué le délire scientiste et industriel de la croissance infinie, de la perte d'autonomie. On peut citer Latouche également, qui est un auteur contemporain sur ces éléments-là. Maurice Bellet aussi, qui est un philosophe que j'aime bien, qui parle, lui, d'une folie qui s'appuie sur deux principes. Il dit, tout ce qui nous fait envie, nous l'aurons, et tout ce qui est possible, nous le ferons. Donc lui, pour lui, c'est vraiment c'est une folie, quoi. C'est vraiment, on est dans l'illimité. Alors la spiritualité, c'est un sujet qui est très délicat. Certains fuient complètement quand on parle de ça, d'autres adhèrent de façon un peu irrationnelle. J'en parle ici parce que comme je parle de tous les secteurs un petit peu anthropologiques, c'est difficile de laisser de côté vraiment la spiritualité. Ce qui est clair, c'est que ça appartient à la sphère privée. C'est pas collectivement qu'on va définir des règles spirituelles. Par contre, on peut noter quand même que les traditions spirituelles appellent en général à la modération. Et l'homme n'est pas que matériel. Donc, à nouveau, un petit dessin de Andy Singer. On voit que donc là, en l'occurrence, on voit que ça ressemble au Christ. Donc, on peut imaginer que c'est les valeurs chrétiennes qui sont foulées aux pieds par le Père Noël, qui est le grand vainqueur des fêtes de Noël. Hein, Noël, c'est absolument plus la fête chrétienne, c'est la surconsommation. Donc le Père Noël est vainqueur. Le Père Noël qui a été créé par Coca-Cola, enfin vous connaissez peut-être, on pourra en reparler là aussi, si vous voulez. L'éloge de la lenteur aussi, donc Pierre Sanzo lui nous dit, c'est augmenter notre capacité d'accueillir le monde et ne pas nous oublier en chemin, c'est l'effleurement plutôt que l'affairement. Et le pape Fernand Léger nous disait, la vie sérieuse marche à 3 km/h. Par vie sérieuse, il entendait une création artistique ou une création scientifique. Donc lui, il était le peintre que l'on sait. Hein. Et il dit, la vie sérieuse marche à 3 km/h, c'est-à-dire au pas d'une vache sur la route. Il veut dire par là que l'homme est fini, hein. On a une limite à notre capacité à faire toujours plus vite. Donc pour lui, si on veut faire les choses sérieusement, avec profondeur, il faut prendre le temps de le faire. Ça, c'est Fernand Léger. Moi, je pense aussi qu'on a énormément de choses à découvrir de façon très très simple dans notre quotidien, dans ce qui nous entoure. Ça, c'est des photos que j'ai prises dans les monts du Lyonnais, donc c'est tout près, on peut y aller en transport en commun, hein. C'est pas nécessaire d'aller à l'autre bout de la planète. Je suis ébahi devant ces choses-là que vous connaissez peut-être, hein. Ça, c'est une petite orchidée qui s'appelle l'Ophrys mouche, donc qui est toute petite, hein. Chaque fleur fait 30 ou 40 millimètres. Et c'est une orchidée qui mime un insecte, donc une mouche ou une abeille. Ou donc vous voyez ici, on voit la fleur qui ressemble à s'y méprendre à un insecte, même les petites antennes qui ont été faites. Moi, je trouve ça fabuleux et ça ne coûte rien. Donc là, on n'est pas dans la croissance perpétuelle et pourtant, c'est extrêmement intéressant de regarder ces petites choses toutes simples. Une autre photo que j'ai prise, tout à fait par hasard, où on voit une guêpe qui s'appelle la guêpe poliste et qui fabrique son nid comme ça de loge hexagonale avec du papier mâché. En fait, elle va sur les piquets de parc, elle récupère du bois, elle mastique tout ça et elle fabrique ce petit nid. Et ce petit nid-là, il fait 30 mm de diamètre, donc là aussi c'est tout petit. Donc ce que je voulais montrer par là, c'est que il y a tout un tas de choses qui sont fabuleuses, qui sont sous nos yeux et qui ne nécessitent pas forcément une débauche d'énergie, une débauche de technologie, de dépenses, etc. Donc si vous me direz ce que vous en pensez, si vous pensez que c'est naïf ou autre, je suis tout à fait prêt à en discuter. Alors les impacts positifs de la décroissance, c'est évidemment une diminution des quantités produites qui entraînerait directement celle des nuisances. Ça passe par une relocalisation de l'économie pour la plupart des auteurs de la décroissance. Donc ça veut dire réduire la distance producteur-consommateur quand c'est possible. Donc là évidemment on aurait la création d'emplois locaux. C'est un refus aussi du pillage des pays du Sud pour les laisser produire ce dont ils ont besoin, ce qu'ils estiment légitime pour eux-mêmes. J'entendais là aussi un collectif d'associations du Sud qui disait « N'allez pas nous envahir avec votre biocarburant. On aimerait quand même faire pousser des choses chez nous dans le Sud, déjà pour nous nourrir. » Voilà, donc là aussi maintenant, on va bientôt faire pousser des éléments pour nourrir nos voitures dans les pays du Sud. Et c'est également une limitation de la concurrence déloyale, une restauration de l'autonomie, on pourra en reparler si vous voulez. Il y a beaucoup de résistance au changement quand il faut savoir dépasser. Là, on est dans le comment. On est toujours dans le comment essayer de promouvoir la décroissance ou comment appliquer la décroissance. Là, dans les résistances au changement, on a les grands médias qui sont propriétés de groupes privés qui, eux, ont absolument pas intérêt à ce que la machine se grippe ou ralentisse. Hein. Il faut que ça continue et toujours plus vite. Donc, Dassault, Rothschild, Lagardère, etc. Donc, c'est soit des financiers, soit carrément des fabricants d'armement, hein, Dassault et Lagardère, qui possèdent tous les grands médias. Hein. Libération, Le Monde, Le Figaro, etc. Il y a une certaine foi qui peut être même presque scientiste, hein, avec une solution miracle qui est toujours à venir. On nous explique que dès demain, on va trouver la solution à tous les problèmes. Donc ça peut être ITER, par exemple, on nous dit on va créer un soleil sur la planète, on aura une énergie infinie à disposition. Ça peut être les nanotechnologies, ça peut être du charbon propre. On nous explique que bientôt, on va faire du pétrole synthétique à partir de charbon, etc., les biocarburants, donc. Moi, je pense que ça tient plus d'une certaine foi non questionnée dans cette solution toujours à venir. Hein, puisque la question, c'est est-ce qu'on arrivera à chaque fois à trouver une solution à tout le champ des problèmes qu'on a décrits. Alors, il y a l'effet rebond aussi qui montre, on pourra là aussi creuser si vous voulez, que les gains d'efficience, parce qu'il y a effectivement des gains d'efficience, si on prend la voiture par exemple, les moteurs consomment de moins en moins, et c'est une réalité, donc on consomme moins de pétrole pour faire une distance donnée. Mais qu'est-ce qu'on observe en parallèle? Puisque si on s'arrêtait là, ce serait bien, tu as moins de carburant pour faire un kilomètre, donc c'est pas mal, ça va dans le bon sens. Qu'est-ce qu'on observe en parallèle? On observe que d'une part, les voitures sont de plus en plus lourdes, ça vous en êtes peut-être aperçu, hein. Je crois qu'une Clio actuellement, ça pèse comme une Safrane de l'époque, ou une R25, je ne sais plus, j'avais lu ça quelque part. Parce que la voiture est maintenant contient tout un tas de systèmes de sécurité, notamment des airbags, enfin tout un tas de choses qui font que la voiture est de plus en plus lourde, est de plus en plus grosse. On fait toujours plus de kilomètres et en plus on met la climatisation. Et la climatisation en moyenne c'est 25% de consommation en plus. En moyenne, ça peut fluctuer. Hein. Donc, quand on voit tout ça, on s'aperçoit qu'il y a eu un gain d'efficience initiale, mais il y a un rebond derrière, c'est-à-dire que ce gain d'efficience est réinvesti dans la croissance. Donc, c'est toujours plus de croissance. On continue, au niveau du résultat net, on est dans plus de pollution. Également, sans doute, se poser la question du pourquoi, du que, et peut-être un peu moins celle du comment. C'est-à-dire qu'on est toujours dans la question du comment faire. Nous, en tant qu'ingénieurs, on nous pose tout le temps la question de comment faire, je ne sais pas, une climatisation d'une voiture, puisqu'on parlait de cet exemple. Donc là, on va se pencher sur le sujet, comment faire optimalement une climatisation. Mais on se pose vraiment la question de pourquoi faire une climatisation ou qu'est-ce qu'il est pertinent de faire aujourd'hui dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, avec les problématiques qu'on a vues, à quoi doit-on consacrer notre énergie. Donc là, quand on pose des questions sur que faire et pourquoi faire, on pose clairement le sens de nos actions. Et là, on retombe sur la question des valeurs dont je parlais tout à l'heure. Quelles sont nos valeurs? Qu'est-ce qui est essentiel pour nous, individuellement, collectivement? Et en fonction de ces valeurs, qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Alors, cette fameuse courbe, vous voyez tout à l'heure ici, on retrouve cette courbe qu'on a vue tout à l'heure de la croissance exponentielle. Et je voudrais vous citer cette petite phrase. Celui qui croit qu'une croissance exponentielle peut continuer indéfiniment dans un monde fini ça veut pas dire terminé, ça veut dire une sphère, c'est la planète en fait dans un monde fini, qui n'est pas infini. Alors celui-là est un fou ou un économiste? Et ce qui est intéressant, c'est que Kenneth Goulding qui a dit ça était un économiste américain. Donc c'est un petit peu humoristique, il s'inclut là-dedans, et il relativise effectivement l'impact de l'économie. Alors toujours dans les résistances au changement, il y a beaucoup de manipulation, c'est sûr. Donc là, j'ai pris deux petites images qui m'ont amusé. Donc là, on voit un petit peu comme une pub des années 50, le style de pub qu'on avait dans les années 50, avec une dame qui nous montre un cerveau et qui dit « Tous les jours, je lave mon cerveau avec la télé. » J'ai mis cette diapo parce que moi, j'ai été sidéré quand j'ai découvert que la durée d'exposition moyenne en France, c'est 3h30. Le Français moyen regarde 3h30 par jour. La télévision. Donc c'est énorme quand on est dit qu'on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire cela, il n'y a pas assez d'investissement, je ne peux pas agir, etc. Quand on entend tout ça et qu'en parallèle on lit que chaque Français passe 3h30 en moyenne. Donc là déjà, tous ceux qui sont là ne sont pas devant leur télé. Donc il y en a qui regardent la télé 7h, 8h, 10h pour compenser. Donc, ça, c'est une première image. Et puis l'autre image, ça, c'est la publicité, évidemment. La publicité qui toujours nous dit « obéis, consomme. Si tu ne consommes pas, tu ne seras pas heureux. Si tu n'as pas telle dernière voiture, tel dernier objet, tel lecteur MP3, tu ne seras pas heureux, etc. » Ça, c'est des mécanismes qui sont bien connus. Donc il y a aussi une certaine servitude volontaire, parce que si la situation est comme ça, c'est aussi qu'on a toléré qu'elle le soit quelque part, dans une certaine mesure. Donc il y a une adhésion qui n'est pas toujours questionnée. J'avais lu un courrier des lecteurs dans le journal La Décroissance, une personne écrivait que à chaque fois qu'on se pose qu'on dit c'est si pratique, il faut qu'on se pose la question, est-ce que c'est vraiment nécessaire, est-ce que c'est pas hyper polluant, etc. Donc elle parlait par exemple des petites lingettes, il existe maintenant des lingettes pour nettoyer un tas de choses. Et donc les gens disaient oui mais c'est si pratique. Ou alors, je ne sais pas, la voiture par exemple, on parlait de la voiture, oui mais c'est si pratique, et quoi, c'est moins pratique maintenant parce qu'il y a des bouchons, etc. Mais à chaque fois qu'on se dit c'est si pratique, il faut se poser la question, est-ce que vraiment ça ne cacherait pas des horreurs derrière du point de vue de nos valeurs humaines justement. Ce qui contrebalance ça, c'est que la simplicité volontaire elle est en hausse. Certaines études montrent que ce serait 15% de l'Amérique du Nord, ce qui est quand même assez surprenant, donc Canada, Québec, États-Unis, 15% des gens qui déclarent être dans une démarche de simplicité volontaire, sobriété volontaire. Et puis la montée en puissance de la société civile, il y a de 7 à 11 millions de bénévoles en France, donc ça aussi c'est rassurant. On a des petits auditeurs, c'est marrant. Alors, relocaliser l'économie, et puis j'ai presque fini, ensuite on pourra échanger. Relocaliser l'économie, on a vu, c'était réduire la distance producteur-consommateur. Là, j'ai pris l'exemple que j'ai tiré d'un bouquin de Laurence Benabou qui s'appelle, je crois, Le Grand Bazar Mondial. Et là, j'ai été sidéré, donc c'est pour ça que je voulais le partager avec vous. Peut-être certains d'entre vous consomment de temps en temps une poêlée surgelée. Donc, c'est ces petits sachets qu'on peut acheter dans les grandes surfaces, surgelés. Il y a tout un tas de légumes dedans. Donc une poêlée surgelée, là c'était le leader, je ne vais pas citer la marque, c'était le leader du donc voilà, en général quand vous achetez une poêlée, c'est plutôt chez celui-là. Alors les choux-fleurs peuvent venir de Pologne, où ils coûtent 30% moins cher qu'en Bretagne. Hein, donc les choux-fleurs bretons, c'est fini. Les choux de Bruxelles ne viennent plus de Bruxelles mais du Guatemala. Les poivrons viennent de Turquie et d'Espagne. Les asperges, elles viennent du Pérou. Les haricots viennent du Kenya. Les champignons et les petits pois viennent de Chine. Le maïs vient tout autant du sud-ouest de la France. Donc il y a quand même du maïs qui vient du sud-ouest de la France. Que de Hongrie, mais la Thaïlande devient moins chère. Donc à la fois le sud-ouest et la Hongrie ont du souci à se faire. Donc vous voyez, pour une simple poêlée qui effectivement est si pratique, on a mis à contribution la planète entière, quasi. Donc je crois que là, vraiment, il faut s'interroger sur nos modes de consommation. Donc je crois qu'il faut bannir les préparations industrielles, privilégier les producteurs locaux, les marchés, les AMAP, etc., privilégier la qualité sur la quantité, et puis essayer de se désintoxiquer du prix le plus bas possible. Parce que quand on achète quelque chose au prix fracassé, en général, comme je le disais, ça cache bien des horreurs, et il vaut mieux pas savoir comment ce qu'on achète a été produit. Parce que là, on aurait des sueurs froides. Donc, cohérence individuelle, on en a parlé, je passe. Éviter les achats en grande surface, etc. Là, on le voit peut-être pas très bien à l'écran ici, mais je voulais montrer qu'il y a... Moi, je privilégie ce type de caddie-là, plutôt que ce type de caddie ici. Hein. Donc ça, c'est le caddie à roulettes, qui permet de faire ses courses au marché, plutôt que le caddie à quatre roulettes, qui lui permet d'aller en grande surface. L'action collective, moi je pense que ça passe par une nécessaire politisation. Alors vous allez où vous voulez pour faire ça, évidemment, hein, si vous souhaitez le faire. Il y a un petit parti qui essaye de porter la décroissance, mais il est tout jeune, donc on verra ce que ça peut donner. Parti pour la décroissance avec un escargot comme logo, pour montrer qu'on veut aller vers plus de lenteur. Investir la démocratie représentative, apporter aussi un peu de radicalité et de dissensus créateur, parce qu'on trouve qu'il y a beaucoup de consensus. Cette croissance, elle est pratiquement jamais questionnée, comme on le disait. Donc si on amène un peu de dissensus, ça fera du bien à la démocratie, et puis orienter la commande publique. Donc voilà, c'est ma dernière diapo. Alors comment conclure? Toujours les petits dessins de Singer ici, où vous voyez quelqu'un qui est dans l'hypercroissance, il fait tout un tas de choses, hein. Il a un ordinateur, il regarde la télé, il écoute de la Wi-Fi, il imprime quelque chose, il boit une bière, il a un téléphone mobile, bon, etc. Donc il est suragité, ce brave garçon. Et puis une personne qui essaye, elle, d'être à notre écoute, quoi. Elle nous écoute, elle est plus dans la décroissance, elle est plus posée, quoi. Voilà. Voilà comment Singer, en tout cas, comment ce dessinateur américain voit les choses. Alors, qu'est-ce que j'ai essayé de vous montrer, et puis là vous me direz ce que vous en pensez, c'est déjà de poser la question de la croissance. Est-ce que vraiment la croissance est soutenable? Est-ce qu'on peut continuer avec ce type de courbe explosive qui va rencontrer successivement une multitude de limites, que ce soit une limite environnementale, que ce soit une limite sociale, psychologique, hein, il y a tout un tas de limites, parce que l'être humain a des limites, il est fini, il a une finitude. Donc poser la question de la croissance, montrer que la décroissance n'est pas une croissance négative, mais bien plutôt une désaliénation de la croissance infinie ou durable. Hein, il y a beaucoup de candidats à la présidence qui nous parlent de croissance durable. Il faudrait voir que peut-être une croissance durable. Une prise au sérieux des conclusions scientifiques, l'importance de la sobriété qui permet le partage, la sobriété évidemment de ceux qui sont en situation de surcharge, hein, de surconsommation, pas les autres. Je ne vais pas demander aux Burkinabés qui consomment 0,1 planète de faire de la décroissance. Hein. C'est un non-sens complet. Hein. C'est précisément pour le Burkinabé, pour lui permettre de croître, qu'on parle de décroissance. Favoriser aussi la joie de vivre. Et puis, c'est une pensée qui est en construction. Donc, je ne prétends pas du tout avoir épuisé le sujet. Et là, on a un certain temps encore pour discuter ensemble. Si vous le souhaitez, on a trois quarts d'heure à peu près. Donc voilà ce que je voulais vous dire.